On poursuit cette édition avec vous, Evelyne Auberçon. Vous vous êtes intéressée à la spiritualité de l'enfant, notamment à travers une méthode catégétique innovante, peu conventionnelle, qui s'appelle Godly Play.
Oui, une méthode, comme son nom l'indique, qui nous vient du monde anglophone, des États-Unis plus précisément. Alors, Godly Play, c'est un jeu de mots franchement intraduisible en français. Il faut retenir God, c'est-à-dire Dieu, et Play, le jeu, car cette méthode fait le pari que c'est par le jeu que l'on peut prendre au sérieux la spiritualité de l'enfant, par l'expérience aussi. Le ou la catéchiste devient un narrateur, narratrice de récits bibliques en utilisant d'abord du matériel, des objets qui permet à l'enfant de visualiser et puis ensuite lui permet de toucher, de jouer aussi.
Donc ça vient des États-Unis, mais est-ce que ça fait des émules en Suisse?
Oui, en Suisse romande notamment, mais elle est déjà bien connue dans les pays anglophones. Elle a été initiée par un pasteur du nom de Jérôme Berryman dans les années 80. Lui s'est largement inspiré de l'approche pédagogique de Maria Montessori. En Europe, c'est d'abord l'Angleterre, évidemment, qui a pris connaissance de cette méthode. Et depuis quelques années, c'est grâce à Genève que le monde francophone fait progressivement connaissance avec Godly Play.
Donc Genève qui fait montre de pionnier.
Oui, on peut le dire sans hésiter, via son centre œcuménique de catéchèse. Trois collaboratrices du centre de catéchèse sont habilitées à former les narrateurs et les narratrices Godly Play. Nous irons les trouver tout à l'heure. Mais avant, je vous propose de nous rendre dans la paroisse protestante de Versoix, qui pratique cette méthode. Méthode qui, dans l'idéal, suppose un espace dédié. Et à Versoix, une salle Godly Play a été aménagée. On l'appelle l'église des enfants.
Ben là, quoi cette salle? Qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Alors, vous n'y trouverez ni chaise, ni table. Juste un tapis, des coussins et tout autour des étagères où est placé le matériel nécessaire pour chacun des récits. Nous sommes mardi midi, des enfants entre 9 et 11 ans viennent de manger et c'est maintenant l'heure du récit Godly Play. Alors, on enlève ses chaussures avant de pénétrer dans la salle adaptée pour les enfants. Joël Grandjean les accueille à la porte et Eva Simette, la narratrice, les attend à l'intérieur.
T'es prête, Selina?
Oui.
Diane?
Oui.
Jules, tu es prête?
Oui.
Vous êtes prêts?
Oui.
Ouais. Alors, regardez où je vais chercher notre histoire d'aujourd'hui. Elle est ici, tout près de l'étagère de Pâques. Mais c'est un peu une boîte bizarre. Elle est dorée, ça nous fait presque penser à une parabole. Cette boîte, elle contient tout ce qu'il y a ici, à l'intérieur. C'est en ça qu'elle est spéciale. C'est la plus grande parabole de toutes. Personne n'a jamais vu Dieu, de sorte que la parole a été faite chair. Dieu est devenu une personne.
Caroline Berti-Lopez, vous êtes collaboratrice au service catholique de catéchèse à Genève. Godly Play, c'est une méthode, mais c'est aussi une forme de liturgie, non?
Oui, absolument. Et bon, c'est volontaire donc, hein. Et les étapes Godly Play, d'une séance Godly Play, la première étape commence déjà sur le seuil. Une personne qui salue chaleureusement chaque enfant par son prénom et qui lui demande « Es-tu prêt ?» Alors, l'enfant va dire oui ou non, il est libre de dire oui ou non, mais on ne sait pas à quoi il va être prêt. C'est lui qui le sait. Donc il rentre et il va être accueilli à son tour par le narrateur ou la narratrice qui est déjà à l'intérieur. L'enfant est déjà attendu. Une fois que tout le monde est prêt, le narrateur ou la narratrice va chercher le matériel pour raconter l'histoire du jour. Ce matériel qui se trouve toujours au même endroit. Alors, on a une phrase rituelle aussi qui est répétée. Regardez bien où je vais chercher ce matériel, comme ça vous saurez toujours où le retrouver. Et effectivement, lorsqu'un enfant veut jouer avec tel ou tel matériel, il sait où il se trouve pour aller le chercher. Et puis, ce matériel donc, permet de raconter une histoire biblique ou bien une action aussi liturgique. Et puis, chaque présentation se termine toujours par un temps d'émerveillement, le wondering. Malheureusement, on n'a pas l'équivalent en français pour dire qu'on s'émerveille en se posant la question. Alors, on pose des questions en se disant « je me demande ». Et puis, suivant le type de narration qu'on a raconté, il y a différentes questions. Je me demande ce que vous avez le plus aimé, je me demande ce qui est le plus important. Voilà, d'autres questions, mais qui nous permettent tout à coup de faire le lien entre moi et ce que je viens d'entendre. ces histoires sont aussi racontées en laissant beaucoup de temps de silence, de manière toute tranquille. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le temps de réponse. Le temps de réponse où c'est un temps de créativité libre, créativité ou pas. On leur propose de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien aussi rester assis à rien faire. Ou alors, ils font un bricolage. Alors là aussi, on leur propose du matériel, du beau matériel qu'ils ont envie de travailler. Que ce soit des crayons, des bouts de bois, que ce soit de la peinture, de la pâte à modeler. Voilà, ils jouent avec le matériel présent dans la salle, ils font ce qu'ils veulent et surtout, on ne leur demande pas de compte. Puis ensuite, le moment préféré des enfants, c'est le festin. Le mot festin ne veut pas dire la quantité de choses qu'on va manger ou quoi, c'est simplement un sirop, un verre d'eau avec un petit biscuit. C'est le plaisir d'être ensemble. Ils peuvent partager des soucis, ils peuvent partager des joies. Et puis à la fin, donc, il y a un moment de prière aussi avec les enfants et l'envoi qui est aussi un envoi avec une bénédiction. Chaque enfant reçoit une bénédiction personnelle au moment de partir par le narrateur ou la narratrice.
Je me demande, quelle partie de cette histoire vous avez préférée ?
Moi, j'ai aimé quand il a répondu aux personnes à qui lui ont posé des questions.
Quand il répond aux gens qui essayent de le piéger ou que de lui posent des questions difficiles, c'est ça que tu as aimé. Ouais. Je me demande, quelle partie de cette histoire est la plus importante ? Thomas.
Quand Jésus est aussi né, parce que sinon rien de tout ça ne serait passé.
Quand Jésus est né, parce que sinon tout ce qui vient après n'aurait pas pu se passer. Ouais. Simon.
Quand Marie a prié à Dieu.
Quand Marie a prié à Dieu. Céline.
Quand il a cassé le pain pour donner à tout le monde.
Quand il a cassé le pain pour le donner à tout le monde. Ouais. Je me demande ce qui peut bien venir dans ce triangle qui est resté vide. Céline.
Moi.
Toi, c'est ton histoire.
Quand les disciples, ils ont eu le Saint-Esprit.
Quand les disciples, ils ont eu le Saint-Esprit.
Alicia. Peut-être une nouvelle histoire.
Peut-être une nouvelle histoire. Qui doit encore être écrite, peut-être.
Eva Simet, catéchète, en dialogue avec des enfants de la paroisse protestante de Versoix. Alors, on l'entend, elle accueille les paroles des enfants, mais elle n'ajoute rien, elle corrige pas leurs propos.
Surtout pas, surtout pas. Parce que dans la méthode Godlieplay, pas question de livrer un discours formaté. Le but, c'est vraiment d'offrir un cadre, d'offrir un récit biblique qui permet à l'enfant de développer sa propre spiritualité.
Donc, pas d'interprétation, mais quand vous parlez de spiritualité, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, la spiritualité des enfants.
Alors, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment, même très très récemment. On a longtemps pensé en fait que l'enfant était comme un vase vide qu'il fallait remplir de connaissances. Mais aujourd'hui, des études montrent que la spiritualité est innée chez l'enfant. Je laisse Caroline Berchi-Lopez le soin de nous décrire les caractéristiques de cette spiritualité. Elle est formatrice Godlieplay et est aussi auteure d'un livre sur le sujet intitulé « Les enfants portiers du royaume » paru aux éditions Cabedita. Elle résume la spiritualité de l'enfant grâce aux 5 lettres du mot « esprit ».
Alors avec le « e », nous avons par exemple l'émerveillement, la capacité des enfants de s'émerveiller pour tout et avec un tel bonheur. Nous avons le mot « expérience » parce que les enfants sont toujours en lien avec ce qu'ils ont vécu. Et le mot « esthète » parce que une des caractéristiques, c'est que les enfants aiment la beauté. Avec le « S », on a la recherche du sens. Dès tout petit, les enfants sont en recherche de sens. Pourquoi ceci et pourquoi cela? Ils se posent des questions. Une curiosité naturelle, innée, parce qu'ils veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et le S pour les 5 sens aussi, parce que découvrir le monde, c'est aussi utiliser tout leur corps pour l'appréhender. Le P pour le mot présence, parce que les enfants sont totalement présents dans l'ici et maintenant, et vivent les émotions d'une manière très forte, parce qu'ils sont à fond dedans, et ils peuvent passer de rire aux pleurs, vice-versa, d'une manière très vite. Ensuite, nous avons le R de relation, un enfant étant en relation dès la naissance, il a besoin de relations d'amour particulièrement aussi pour grandir et s'épanouir. Relation aussi au mystère. Ils sont entourés de mystères, le monde est mystère pour eux. Et du coup, c'est pas du tout menaçant s'ils n'ont pas forcément des réponses pour tout de suite. Et grandir avec le mystère, c'est aussi leur permettre de l'accueillir, de l'accepter, même une fois adulte. Et il se relie également à la création, à la nature, avec les animaux d'une manière très naturelle. Ça pour le R de relation. Ensuite, nous avons le I pour l'imaginaire. À quel point ils ont cette capacité de partir aussi dans des histoires abracadabrantes, imaginaire dans le jeu inutile, avec le I de inutile, vraiment, où ils jouent pour jouer, parce qu'il n'y a pas forcément un but. Et avec le T d'esprit, nous avons l'ouverture à la transcendance, cette ouverture innée que les enfants ont de tout petit, de se relier comme ça à la transcendance, à la nature, à l'au-delà. Après, on peut l'appeler comme on veut. Hein.
Ici, on est dans l'église des enfants de Versoix. Est-ce que tu aimes bien être dans cette salle ?
Oui, parce que j'aime bien écouter les histoires de Dieu. Et puis, ça m'intéresse beaucoup.
Moi, j'aimerais bien que tu regardes tout autour de toi dans cette pièce et que tu me dises si tu te souviens d'un récit dont tu aimerais bien me parler.
Oui, il y a par exemple celle de l'avant qui est au fond.
Je te laisse, on va y aller au fond là-bas.
C'est celle-ci, il y a plusieurs images et sur chaque image, il y a une bougie en plus sur la couronne de l'avant et aussi ça parle des préparations pour l'arrivée de Jésus.
Alors, vous avez encore 2-3 minutes, après on commence à ranger. Et si vous n'avez pas fini, vous pouvez mettre dans votre valise et on finira la prochaine.
Ça va ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Je suis en train de découper les petites images pour les coller.
Là, si tu devais choisir une image qui t'a particulièrement touchée, qui a aussi été utilisée pour le récit, ce serait laquelle ?
L'histoire quand Jésus a aidé les autres, parce que moi je trouve que c'est très important. Moi, j'aime bien aider des autres gens. J'ai l'impression que ici, comme on écoute à chaque fois les histoires de Jésus, je me sens plus près de Dieu quand je suis ici.
Célina et Alicia, vous allez distribuer le festin. C'est lourd, vous le mettez au milieu, tout doucement. Et puis après, vous distribuez. Et comme toujours, je vous rappelle, on attend que tout le monde soit servi. Mathéo, tu viens avec nous. Après, tu pourras faire.
Merci.
T'as ton verre ? Et alors, je vous dis bon festin.
Merci.
Je peux reprendre mon sirop dessus.
Je peux reprendre un sirop.
Tant qu'il y en a. Vas-y. Et pendant que vous finissez le
voilà, Eva, s'y mettre, les enfants s'en vont.
Oui, c'est toujours le départ des enfants, c'est toujours un peu plus compliqué que l'arrivée parce qu'il y en a dans des écoles différentes, il y en a qui sont pressés, d'autres qui veulent rester, puis il faut voilà, veiller aux horaires et tout ça.
Vous êtes narratrice Godly Play depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette méthode ?
Ce qui me plaît, qui me correspond beaucoup, c'est de pas. C'est une méthode qui me permet de pas leur donner des vérités, mais plutôt de leur faire réfléchir par eux-mêmes, de les questionner et puis d'entendre ce qu'ils ont à dire. Plutôt que de moi leur dire, bah voilà, telle histoire, ça veut dire ceci, donc il faut se comporter comme ça. Au départ, j'étais sceptique par rapport à la méthode et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une vraie valeur parce que, comme vous avez pu l'entendre, les enfants, ils ont des réponses des fois qui nous clouent au sol. Hein. On est scotché par rapport à ce qu'ils sont capables de sortir. Voilà, éveiller leur spiritualité sans leur donner du dogme tout cuit, tout fait.
Vous disiez au départ un peu sceptique ?
Oui, parce que alors la méthode en tant que telle, quand on vous l'enseigne, elle est très, comme elle a un copyright, elle est très dogmatique en elle-même, la méthode. Et du coup, au début, j'étais là, je voulais pas ce cadre strict, parce que je trouvais que ça limitait la liberté que je pouvais avoir. Et en fait, je me suis rendu compte que ce cadre très strict permet la liberté à l'enfant. Et que c'est pas ma liberté à moi, mais la liberté de l'enfant de réfléchir, d'analyser, de croire, de partager sa foi. Et ça, c'est précieux.
Alors, on se trouve dans ce que vous appelez l'église des enfants, c'est-à-dire une pièce dans le presbytère de la paroisse protestante de Versoix. Vous êtes en grande partie l'initiatrice de ce lieu. Pourquoi l'Église des enfants ?
En tant que maman de trois enfants, ce qui m'a toujours posé, entre guillemets, problème, c'est que les enfants, on les met toujours un peu sur le côté. Ils sont annexes, ils sont là, ils dérangent. L'Église, quelque part, ne leur fait pas une place assez visible. Et du coup, d'avoir un lieu qui leur est consacré et qui est leur Église, qui soit chouette, qui soit chaleureux, qui soit lumineux, comme vous le voyez, et qui contient la parole, la Bible, mais d'une manière qu'ils puissent la comprendre, c'est-à-dire avec des figurines, avec des images, avec des personnages. C'est pour moi, c'est une des meilleures manières que j'ai vues pour l'instant de leur transmettre le contenu de cette parole qui est si importante.
Alors, il faut le dire, dans cette pièce, pas de chaise, pas de table, un tapis avec des coussins au centre, et tout autour des étagères où on voit des parties de récits bibliques, évidemment la crèche tout devant, mais d'autres récits bibliques. C'est une pièce qui est aménagée selon la terminologie Godly Play, ou bien ?
Alors, dans les grandes lignes, on va dire. J'ai essayé de respecter l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et qu'il y a un passage entre ces deux moments. Donc dans l'ordre, là vous avez l'étagère de Pâques avec tous les récits de Pâques et ce qui va avec. Et puis après nous avons l'Ancien Testament qui vient dans la deuxième partie ici. Donc j'ai essayé de respecter dans la mesure du possible. Maintenant je pense que si quelqu'un vient faire une inspection, un audit, elle est pas à 100% la disposition, mais elle essaye pour que les enfants se repèrent aussi. C'est-à-dire qu'un récit, il vient d'où ? Ah, il vient, tiens, c'est là l'Ancien Testament, c'est avec Abraham, Moïse et tout. L'autre côté, ah non, c'est Jésus, c'est les paraboles par exemple.
Je vous laisse continuer de ranger.
Merci.
Voilà, on a fermé l'église des enfants. Quand est-ce qu'elle va de nouveau s'ouvrir ?
Vendredi pour l'éveil à la foi œcuménique et ensuite samedi pour nos amis catholiques qui vont utiliser la salle aussi. Et ensuite dimanche et tous les dimanches suivants.
Parce que la méthode en soi est œcuménique ?
La méthode n'est pas confessionnelle. C'est effectivement très œcuménique et accessible à tous les chrétiens.
Et va s'y mettre, avec quelle perle vous repartez aujourd'hui ?
Alors, la perle du Saint-Esprit, un enfant de 10 ans qui est capable de dire que dans le triangle vide, lui, il voit le Saint-Esprit qui est venu sur les disciples, qui vient spontanément de lui. C'est une perle que je porterai pour le reste de la journée.
Vous écoutez Haute Fréquence et on parle de la spiritualité des enfants au travers d'une méthode innovante qui s'appelle Godly Play. On était avec Eva Simet, narratrice Godly Play, catéchiste à la paroisse protestante de Versoix. Alors Evelyne Auberçon, vous nous emmenez maintenant au Centre œcuménique de catéchèse à Genève qui fait œuvre de pionnier en la matière.
Oui, parce que c'est là que la formation Godly Play est donnée pour toute la Suisse romande et même au-delà. Je suis allée à une soirée de sensibilisation, une quinzaine de personnes étaient présentes, presque toutes venaient de France voisine, donc l'intérêt se répand. La plupart vont se former comme narratrices. La soirée était animée par Florence Auvergne-Abric et Catherine Ulrich dans le rôle de la narratrice. Ce sont donc deux formatrices Godly Play. Pour présenter la méthode, Catherine Ulrich a choisi l'histoire d'Abraham, de Sarah et de leur famille qui se passe dans le désert, donc avec du sable et du vrai sable.
Beaucoup de choses se passaient dans le désert pour le peuple de Dieu. Bien sûr, il nous faudrait tout le désert, mais cette salle est bien trop petite. Alors nous prenons le sac du sable. Le désert est un endroit dangereux. Le désert change de forme et vous pouvez vous perdre. Après le déluge, les créatures sont allées dans les quatre directions de la terre pour la repeupler de vie à nouveau. La plus ancienne et plus importante ville était Ur. Il y avait une famille qui croyait que Dieu était entièrement partout. Abraham et son épouse Sarai faisaient partie de cette famille.
Vous avez participé à cette soirée de sensibilisation Godly Play. Qu'est-ce qui vous a touché dans la méthode qui vous a été présentée ce soir ?
d'aborder tout ce côté religion par des histoires. C'est un moment où on est tous ensemble et on a le temps d'interpréter ou de faire ce qu'on veut avec cette histoire et que c'est pas quelque chose d'imposé en fait.
Vous dites c'est pas imposé, ça paraît être important pour vous.
Oui, les cours de catéchisme c'était des choses imposées, c'était ça et rien d'autre. Et même dans le rituel de l'Église, je trouve que c'est imposé. Il n'y a pas ce moment de discussion et d'ouverture que je trouve qui est importante.
Et de liberté. Et
oui.
Ce qui me touche, c'est la curiosité que ça éveille chez l'enfant. Ça donne envie d'aller plus loin. C'est une méthode qui est concrète. Et il n'y a pas de juste ou de faux. Ce n'est pas un enseignement. C'est vraiment susciter chez l'enfant quelque chose. Tant mieux parce que c'est comme ça.
D'où vous venez ?
De Belgique.
Vous êtes venu exprès pour cette soirée ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous motivait à faire tout ce trajet pour venir à cette soirée ?
Donc le Godly Play est quand même quelque chose de particulier, d'un peu nouveau, on va dire ça comme ça, et aussi de protéger.
Est-ce qu'en Belgique, pour l'instant, on ne connaît pas Godly Play ?
En Belgique, on le connaît principalement côté flamand. Quand t'es francophone, on est vraiment en train de le découvrir. Certains le pratiquent, ça et là, mais vu qu'il y a une protection, eh bien, certains ont envie de se former, dont moi et d'autres. Alors, moi, je suis pasteur, et donc, oui, je le fais dans le cadre de la catéchèse que je prodigue aux enfants, aux adolescents. La spécificité de Godly Play, c'est vraiment qu'on vive. On vit l'histoire, on la voit devant nous, elle est en train de se réaliser devant nous. Je suis dans le récit. J'ai vu le récit se passer devant mes yeux. C'est comme d'avoir fait les montagnes russes. Mais on les a faites, on sait ce que ça nous a fait comme vécu à l'intérieur.
Parce que ça passe par une expérience.
Oui, oui, une expérience.
Florence Auvergne-Abric, vous êtes une des formatrices Godly Play qui travaillait ici au Centre œcuménique de catéchèse à Genève. On vient de vivre une soirée de sensibilisation. Ce qui revient souvent, en tout cas dans les entretiens que j'ai pu faire après, c'est le fait que c'est une méthode qui est radicalement différente de l'enseignement religieux que ces participants ou participantes ont reçu.
Oui, ça c'est effectivement une des choses qui est dite, qui a même été dite de manière très touchante à un moment avec une personne qui a dit « je souhaite moi pouvoir transmettre ce que je n'ai pas reçu au niveau du développement de ma propre spiritualité ». Et c'est vrai, c'est aussi personnellement ce qui m'a séduit dans cette méthode, c'est à quel point c'est effectivement différent d'une méthode didactique. Et c'est vrai que là j'ai pu reconnaître, outre évidemment la méthode Montessori dont elle s'inspire directement, mais aussi beaucoup de ces grands axes que l'on prône dans les méthodes actives qui sont laisser la place à l'enfant, lui reconnaître des capacités de réfléchir par lui-même, de se construire par lui-même, du moment qu'on met à sa disposition un matériel et une méthode qui est adaptée à ce qu'il peut faire et entreprendre. En fait, il y a plusieurs axes donc dans le Godly Play qui traversent. Il y a ce qu'on appelle les récits sacrés, dont vous avez eu un exemple ce soir, qui sont en fait les récits qui permettent la construction de l'identité du peuple de Dieu et qui se prolongent également ensuite dans certains récits du Nouveau Testament. On a les récits des paraboles, qui sont là des récits. Alors, les récits du peuple de Dieu qui parlent justement de cette construction de l'identité du peuple sont des récits qui se rencontrent tous avec des objets qui sont en trois dimensions et qui sont de couleur neutre. Pour les paraboles, comme il s'agit d'histoires, on raconte une histoire comme dans un livre d'images et les paraboles vont être en deux dimensions et elles sont colorées. Alors ça, ce sont des détails qui semblent peut-être anodins à première vue et qui sautent pas forcément aux yeux, mais qui ont un sens. Et là, c'est là qu'on réalise à quel point cette méthode, elle a été éprouvée, testée et que finalement, ben, le produit que nous en avons est quand même pas fruit du hasard. Il y a vraiment des choses qui ont été vraiment pensées. Puis il y a une quatrième dimension qu'on ne voit pas, mais qui est importante, qui est le silence. Et ça aussi, c'est immédiatement perceptible. On laisse, dans la formation, on fait vraiment une place à cet espace. Et ça, pour moi, c'est très, très original et très précurseur. On favorise la créativité des enfants, on les stimule, parfois on les surstimule. Et je suis très touchée qu'on redonne une place au silence. Et on voit à quel point c'est important, puisque maintenant fleurissent absolument partout des méthodes où on demande aux enfants des méditations, de se recentrer. Tout ça, c'est pas autre chose que de retrouver une place de ce silence. Et je pense vraiment qu'il y a une partie très importante du silence, qui est le silence de Dieu, qui est à la fois un espace qu'il nous propose pour vivre et pour respirer, et il y a pensé.
Dans cette soirée de sensibilisation, vous avez toujours parlé de spiritualité des enfants et jamais de religion.
C'est très important pour moi de faire la distinction. D'ailleurs, il y avait des personnes ici qui étaient venues par intérêt personnel, qui n'étaient pas forcément rattachées à une église, qui sont intéressées par la démarche parce qu'elles sentent qu'il y a là quelque chose de foncièrement original et justement qui s'affranchit d'une forme de religiosité qui a fait beaucoup de dégâts. Tout le monde fait ce qu'il peut faire et je pense qu'on n'a pas à réécrire le passé, ni c'est facile de juger maintenant depuis notre point de vue. Mais très certainement, le constat, c'est que la religion, en tout cas la manière dont les choses ont été amenées pendant des années à travers la religion, ne correspond plus. Si tant est qu'elle a correspondu à certaines personnes, en tout cas actuellement c'est sûr, et voire même on peut dire que ça a fait certains dégâts chez des personnes qui se sont détournées, faute d'avoir trouvé ce dont elles avaient envie. Donc oui, résolument, on parle de spiritualité, on parle aussi de théologie des enfants, et ça me semble vraiment central dans la démarche.
Alors qu'est-ce que vous mettez derrière le mot transmission ?
Ouf, vous avez 2 heures.
Là, il y avait l'idée d'autrefois qu'on transmettait un savoir, oui. On transmettait des connaissances, oui. Il s'agissait de former l'esprit des futurs chrétiens. Là, qu'est-ce que ça signifie ?
D'abord, moi, je dirais que la transmission, pour moi, c'est un savoir-être. Quelqu'un a dit, si je prêche le respect, je ne fais qu'apprendre aux enfants le prêche. Pour transmettre le respect, il faut le vivre soi-même. Si je reconnais à l'enfant la capacité de réfléchir et de penser par lui-même, au nom de quoi je ne lui reconnais pas la capacité de développer par lui-même sa spiritualité et d'avoir un point de vue théologique dans le sens d'une élaboration de sa pensée critique par rapport à des textes qu'on lui propose. Et ça me semble très très présent dans le Godly Play, parce qu'on donne des pistes aux enfants, mais il n'y a pas ni de censure, ni de formatage de ce qu'on attend de la part des enfants.
Caroline Berti-Lopez, nous sommes ici au centre écuménique de catéchèse à Genève, et à Godly Play, mais c'est une des nombreuses méthodes ou activités que vous proposez ici. Est-ce que Godly Play est en train de balayer les autres façons de faire catéchèse ou ça reste une méthode parmi d'autres ?
Alors, pour l'instant, elle reste quand même assez peu utilisée sur Genève. Genève et nos paroisses rencontrent des difficultés avec les responsables des paroisses, avec les responsables de catéchèse. C'est difficile de lâcher l'enseignement. Godly Play demande de lâcher ça. On lâche l'enseignement, on lâche aussi de vérifier qu'ils ont compris, qu'ils n'ont pas compris, qu'ils sont prêts, qu'ils ne sont pas prêts. On est encore beaucoup là-dedans.
Et donc il y a un changement de posture de la part de la personne qui donne du catéchisme, c'est ça ? C'est ça qui est difficile à changer ?
Oui, c'est ça. Changement de posture, changement de mentalité, c'est plus un enseignement qu'on amène, c'est un accompagnement. C'est accepter que l'enfant lui-même nous enseigne, lui-même nous apporte des choses, c'est pas nous qui avons la vérité. Voilà, c'est un petit peu ça à lâcher. Et puis c'est la difficulté de trouver des lieux. Très peu de paroisses sont disposées à offrir un lieu rien que pour les enfants. Il y a toutes les locations, toutes les réunions des adultes. Pourtant, la catéchèse a une place énorme dans la pastorale des paroisses. Et pourtant, on hésite encore à offrir des espaces réservés aux enfants. Donc, une ouverture un petit peu plus grande du côté protestant. Et puis, on espère que ça vienne aussi du côté catholique. Mais il y a peut-être d'abord un changement de mentalité à avoir. En Valais, par exemple, où la catéchèse se fait à l'école, il y a un intérêt dans les paroisses catholiques, quand même, de prendre Godly Play en complément de ce qui est fait à l'école. Peut-être que ça les rassure parce qu'ils savent que l'enseignement qu'ils veulent donner, il se fait de toute façon. Mais il y a quelque chose de chouette aussi à vivre autour de Godly Play, je crois que c'est ça. Mais nous, on dit, il n'y a pas que ça. On peut très bien proposer une catéchèse plus traditionnelle, tout en vivant Godly Play de temps en temps. C'est juste de quelle manière on amène les choses, de quelle manière on écoute et on accueille ce que les enfants ont à dire.
Dans quelle mesure aussi on comprend sa spiritualité?
Puis dans quelle mesure on accepte de se laisser bousculer, parce qu'ils nous bousculent, les enfants, quand ils répondent, ils réagissent. Voilà, on a trop tendance à attendre d'eux encore les réponses justes. C'est ça qu'il faut changer aussi dans la catéchèse traditionnelle, de dire posons les questions autrement, de façon à laisser l'espace à l'enfant au développement de sa spiritualité, au développement de sa compréhension à lui religieuse. Et puis pas que nous on donne la réponse fermée, qu'ils vont oublier demain et après-demain d'ailleurs. Tandis que s'ils l'ont trouvée par eux-mêmes et qu'ils évoluent avec leur propre réponse, je vous assure qu'ils la gardent celle-là.
Caroline Berchi-Lopez, formatrice Godly Play, est auteure d'un livre intitulé « Les enfants portiers du royaume » paru aux éditions Cabedita. Evelyne Auberçon, on l'entendait tout à l'heure, cette méthode rencontre aussi quelques réticences.
Oui, parce que Godly Play suppose un changement d'attitude, vous l'avez entendu dans la bouche de Caroline Berchi-Lopez, mais c'est aussi parce que ça suppose du matériel spécifique qui peut s'avérer coûteux, à moins que vous soyez bon bricoleur avec quelques talents pour travailler notamment le bois.
À vous établir.
Mais oui, bien sûr. En même temps, il faut le dire, les trois formatrices que sont Catherine Ulrich, Caroline Berchi-Lopez et Florence Auvergne-Abric, elles ont de la peine à suivre avec toutes les demandes de formation Godly Play qui leur sont demandées. Elles sont sollicitées par d'autres cantons en Suisse romande, par d'autres institutions, mais aussi elles sont sollicitées en France.
Et pour en savoir plus,
Je vous recommande le site godlyplay.ch, le site de l'association suisse. Et puis, si vous voulez vous faire une idée plus précise, vous tapez simplement dans votre moteur de recherche Godly Play et là vous trouverez pléthore de vidéos qui vous montreront qu'est-ce que c'est Godly Play. Et puis à noter aussi, pour dire que ça fait des émules, que la chapelle de Servion, donc dans le canton de Vaud, est devenue tout récemment église des enfants. Donc autant dire que la méthode se répand également dans le canton de Vaud.
Merci Evelyne pour ce dossier, un dossier que vous pouvez réécouter sur notre portail thématique rtsreligion.ch.